the one thing we need more than hope is action.
HE10, penser la conception technologique à partir du livre Prendre soin des milieux, paru aux éditions Matériologiques.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur graphite94.9 ou graphite.net sur le web. Je suis Stéphane Croza, je suis en studio avec Laura Blanc, Gabriela Carillo, Codina, Eliott Deforge, Martin Garcia Suarez et Iliès Guerda. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour. Bonjour à tous.
Alors donc cette émission, vous le savez si vous nous écoutez depuis ce matin, s'inscrit dans le cadre du cours HE10 Penser la conception technologique, un cours de l'Université de Technologie de Compiègne. Et donc depuis jeudi dernier, et bien tous les matins entre 10h30 et midi, jusque les deux autres jeudis de décembre à venir, eh bien on va croiser des concepts vus dans ce cours, des concepts qui viennent interroger la conception technologique avec des cas. Alors, quel type de cas? Eh bien, dans les deux premières émissions, la semaine dernière, on avait travaillé sur la vidéosurveillance algorithmique et les flashballs, les armes non létales. Aujourd'hui, on a déjà parlé de ferme verticale et de IA dans le domaine musical. Et on va donc maintenant passer sur les techniques de retenue d'eau. Alors, donc, le titre de cette cinquième émission, troisième de la journée, les méga-bassines. Une solution miracle face à la crise climatique.
La réserve de substitution, elle est vitale pour la survie de notre exploitation.
Alors que plusieurs milliers de militants écologistes manifestaient contre des projets de méga-bassines.
Si nous n'avions pas eu Serre-Ponçon cette année, c'est l'ensemble d'une vallée qui n'aurait pas pu assumer des fonctions de production, mais aussi d'eau potable, de tourisme et de lutte contre l'incendie parfois. Donc il faut assumer qu'on ait besoin d'un certain nombre d'ouvrages. Et donc vous trouverez toujours le gouvernement pour défendre ça. Vous me demandiez si on entendait faire respecter la loi. Oui, j'entends faire respecter la loi. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, y compris à Sainte-Soline.
Des centaines de Black Blocs se sont affrontés aux forces de l'ordre. 4 policiers et gendarmes et 5 manifestants sont blessés. 7 personnes en garde à vue.
Manifester à Sainte-Soline dans l'ouest de la France contre l'installation de méga-bassines agricoles. Ces réservoirs géants ont pour but de lutter contre le manque d'eau dans l'agriculture. Pourquoi vous êtes contre?
Justement parce que ces grands réservoirs ne régleront pas le problème du manque d'eau en agriculture, ils vont même l'amplifier.
Et si je n'avais pas cette réserve de substitution, je ne pourrais pas cultiver les plantes qui me servent à nourrir mon troupeau. Derrière, ça veut dire arrêt de notre production fromagère. Et c'est minimum 5-6 emplois de personnes qu'on va être obligé de mettre au chômage.
Pagaille et la sidération.
Il y a des gens en fauteuil roulant, il y a des enfants, mais arrêtez quoi. On s'est pris, je me suis pris un projectile alors qu'on n'avait rien fait quoi. Franchement, c'est pacifique, on défend l'eau, vous vous rendez compte?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission d'HE10 consacrée aux méga-bassines. Nous l'avons entendu, c'est une technique qui est de plus en plus contestée et qui fait l'objet de nombreux débats. Alors, avant de rentrer dans les détails, il nous faut préciser à nos auditeurs ce que nous entendons par ce terme, méga-bassine. Pour cela, rappelons que le nom officiel de ce type de dispositif est retenue de substitution d'irrigation. Une méga-bassine est donc une retenue imperméable, donc isolée du sol via des bâches en matière plastique, et capable de stocker d'importants volumes d'eau qui sera utilisé à des fins agricoles. C'est un plan d'eau qui, contrairement aux retenues classiques comme les barrages ou des retenues collinaires, n'est pas rempli par les eaux pluviales ou par le ruissellement, mais par pompage dans les nappes phréatiques. Les méga-bassines sont remplies en période hivernale et permettent aux exploitants agricoles de pouvoir accéder à n'importe quel moment à d'importants volumes d'eau. Donc pour donner un exemple un peu plus concret à nos auditeurs, nous pouvons évoquer la bassine de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Elle s'étend sur près de 16 hectares, soit l'équivalent de 3 terrains de football. Elle a une capacité de 720 000 m3 d'eau, des digues de 8 mètres de hauteur et nécessite près de 18 km de tuyaux pour acheminer l'eau pompée dans 6 points de captage. Il faut 43 jours consécutifs, et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour complètement remplir cette méga-bassine. Alors, les réserves de substitution, les méga-bassines, sont apparues en France dans les années 90 et plusieurs centaines d'entre elles sont aujourd'hui actives, principalement dans le Marais Poitevin. Des dizaines d'autres sont en projet en Auvergne, dans les Deux-Sèvres ou encore dans les Hauts-de-France. Alors que la France compte entre 600 000 et 800 000 retenues de tout type, donc pour la plupart des barrages et des retenues collinaires, pourquoi avons-nous développé des dispositifs techniques fondés sur le pompage des nappes phréatiques? Quelle est la raison d'être des méga-bassines? Laura.
Eliott, déjà l'une des premières justifications des méga-bassines est qu'elles permettent d'assurer un certain niveau d'eau en été, même quand il y a des sécheresses. Effectivement, dans un monde où le climat est de plus en plus incertain, les agriculteurs doivent faire face à de nombreux incidents climatiques et notamment des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Comme l'indique le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dans un rapport paru en 2023, en 2050, il y aura deux fois plus de sécheresse des sols comparé à la période 1976-2005, soit 15 à 27 jours supplémentaires de sécheresse des sols. Plus de périodes de sécheresse signifie ainsi une plus grande demande en eau pour l'irrigation, mais pas que. Les réserves de substitution représentent donc une solution proposée par les chambres d'agriculture afin, je cite, « d'anticiper les solutions qui permettront de sécuriser l'alimentation et d'atténuer autant que possible les pressions pesant sur la ressource en eau ». Donc citation que l'on peut lire sur le site web des chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit donc de substituer des prélèvements en période d'étiage par des prélèvements hivernaux, période pendant laquelle la réserve en eau est plus abondante. Cela permettrait donc de réduire l'impact sur le milieu aquatique des prélèvements agricoles pendant l'été. D'après les chercheuses de l'Université de Montpellier, Marielle Monguinoul et Karine Erdlenbruck, source que vous pouvez retrouver sur notre site réalisé dans le cadre de l'UVH10, les mégabassines ont d'autres avantages. Je cite, « Elles sont plus sûres car la ressource est plus prévisible et n'est pas sujette aux arrêtés de sécheresse. Elles sont moins coûteuses. » Car le droit de pompage dans le milieu naturel est certes gratuit, mais les charges correspondantes sont devenues très élevées. Elles sont moins exigeantes en main-d'œuvre. Et enfin, elles sont propices à offrir de nouvelles opportunités de culture vers des cultures plus rentables, comme le maïs semence par exemple. Alexis Cousseau, également agriculteur bio, précise dans un article paru en 2024 « Le stockage de l'eau est une bonne chose. Capter l'eau de pluie l'hiver quand les nappes sont pleines éviterait que l'eau soit perdue et la valoriserait l'été ».
Mais concrètement, qui sont les acteurs derrière ces projets ?
Eliott, nous avons pu le dire, les chambres d'agriculture de chaque région font partie de ces projets. Elles représentent les agents économiques liés à l'agriculture. Selon Sébastien Wisdor, le président des chambres d'agriculture et lui-même agriculteur en Normandie, elles ont deux rôles. Le premier est à court terme, de gérer et d'accompagner les agriculteurs dans la crise. Et dans un second temps, les chambres accompagnent les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques face aux changements environnementaux et sociaux. Mais on va le voir, les chambres d'agriculture, ne sont pas seules dans ces projets. Par exemple, pour le bassin des Deux-Sèvres, dans lequel 16 projets de réserves de substitution sont en cours, dont celle de Sainte-Soline, la COP de l'eau 79 est un acteur majeur de ce processus. Donc la COP de l'eau, c'est la Société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres. C'est un collectif d'agriculteurs qui a émergé en 2011 suite à de plusieurs années de grande sécheresse. Et leur objectif est de gérer collectivement la ressource. Donc elle représente plus de 300 exploitations sur le territoire du bassin des Deux-Sèvres. Les objectifs principaux de la coopérative sont de sécuriser l'accès à l'eau pour les agriculteurs en construisant des réserves collectives et en mutualisant les coûts des projets. Mais on va voir que les collectivités publiques sont également très impliquées et subventionnent massivement ces installations. En moyenne, 80% du coût d'une retenue est financé par de l'argent public via les communes, les départements, les régions ou l'État. Dans certains cas, on va voir que les associations environnementales dénoncent ces projets en raison de leur impact.
Et donc vous venez d'évoquer les différentes associations. Est-ce que, Elias, vous pouvez nous rappeler pourquoi elles critiquent ces projets ?
Oui, bien sûr, Elliot. Donc, l'installation et l'utilisation des mégabassines fait face à une controverse, et celle-ci s'articule principalement autour de deux axes. Le premier étant les impacts écologiques qu'elles engendrent sur les milieux, et le second étant les inégalités sociales qu'elles génèrent. Donc, dans un premier temps, le prélèvement massif d'eau en hiver perturbe le cycle naturel des nappes phréatiques. Comme le souligne Gaspard de Morcy, doctorant en géologie à l'ENS et spécialiste de la gestion des ressources en eau, je cite « Ce pompage hivernal empêche le rechargement naturel des nappes, aggravant ainsi la situation de sécheresse à long terme. Ainsi, on entrave le cycle naturel de l'eau et on rend par la même occasion impossible le rechargement naturel des nappes. En modifiant le cycle, on fragilise les écosystèmes locaux, notamment les zones humides, essentielles à la biodiversité. Les milieux riches en vie se trouvent donc privés d'eau durant la période où ils en ont le plus besoin, ce qui met en péril des espèces qui dépendent des écosystèmes pour leur survie. De plus, Le stockage de l'eau dans les bassines elles-mêmes n'est pas sans effet. En effet, les pertes par évaporation sont considérables et estimées jusqu'à entre 20 et 60% selon Greenpeace. Donc, l'état de l'eau est également dégradé par processus d'eutrophisation qui correspond à un enrichissement excessif en nutriments et qui va provoquer une prolifération d'algues et de bactéries, comme l'a montré la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. En résumé, les mégabassines ne résolvent pas la question de la gestion de l'eau de manière durable et elles risquent même d'aggraver la situation écologique en dégradant la qualité de l'eau et en perturbant les cycles naturels.
Et vous vouliez également aborder la dimension sociale de cette controverse. Qu'en est-il ?
En effet, les mégabassines ne sont donc pas seulement critiquées pour leur impact écologique, mais aussi pour les conséquences sociales qu'elles peuvent avoir. Elles sont souvent perçues comme un outil de privatisation de la ressource en eau, car ces projets sont principalement soutenus par une minorité d'agriculteurs industriels qui en tirent directement profit, notamment pour les cultures très gourmandes en eau, comme par exemple le maïs. Ce sont ainsi eux qui accèdent à l'eau stockée dans ces bassines, souvent au détriment de plus petits exploitants agricoles ou d'autres usagers de l'eau. Comme l'indique Benoît Grimont-Prez, professeur de droit privé à l'Université de Poitiers, les mégabassines contribuent à, je cite, « réparer la fracture hydraulique », un terme qui désigne de nombreuses tensions sociales, politiques et environnementales qui pèsent autour de la ressource en eau. Cette répartition profite donc essentiellement à une poignée d'agriculteurs, souvent ceux déjà les plus puissants économiquement. Ces projets de bassines sont financés en grande partie par des fonds publics, comme l'a mentionné Laura tout à l'heure, ce qui soulève également des questions éthiques et politiques. Certains avancent donc que les fonds mobilisés pourraient être utilisés pour financer des transitions vers des systèmes agricoles plus durables et moins dépendants de la ressource en eau.
Merci Ilyes pour ces précisions. On peut également rappeler qu'il y a eu de nombreuses expériences autour d'installations de mégabassines au Chili ou en Espagne depuis les années 70, et on peut voir avec le recul historique qu'elles ont été très peu fructueuses. En effet, il y a toujours des situations de sécheresse qui se sont même aggravées, alors même que par exemple le Chili possède la deuxième plus grosse réserve mondiale d'eau douce. Donc on peut le voir avec un recul historique, ces mégabassines posent toujours des problèmes. Mais au-delà de ces considérations techniques et historiques, Gabriella et Martin, vous souhaitiez revenir sur des considérations davantage philosophiques, et notamment utiliser l'histoire des techniques pour prendre du recul sur un sujet comme les mégabassines. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?
Alors effectivement, Elliot, en fait, ce qu'on veut annoncer ici, c'est que toutes les critiques énoncées par mes collègues font clairement écho à un oubli des milieux dont les mégabassines font preuve. Pour que les auditeurs comprennent pourquoi on peut parler d'oubli du milieu, il faut tout d'abord définir ce terme. Le milieu est à la fois ce qui nous entoure, ce dans quoi on baigne en tant qu'individu, mais aussi ce dans quoi le vivant et non vivant habite et interagit. Ce terme de milieu est intéressant parce qu'il permet de dépasser celui d'environnement, qu'on voit, lui, à une réalité absolue, presque fantasmée, que l'homme pourrait saisir et contrôler à l'aide d'une poignée de paramètres, d'une manière surplombante et extérieure. Le milieu est, tel que le propose par exemple l'éthologue Jacob van Uexküll, une réalité subjective qui n'existe que dans la perspective des êtres vivants. Ainsi, lorsque, en tant qu'humain, on ajoute un élément à un milieu dans le but d'apporter une solution à un problème, la définition du milieu peut se retrouver bouleversée.
Et concrètement, comment les mégabassines portent en elles un risque d'oubli du milieu ?
Premièrement, les mégabassines font preuve d'un oubli de la complexité du milieu. En effet, on peut rapprocher une partie des critiques adressées aux mégabassines au nom de l'écologie à l'idée que ces ouvrages sont un moyen de contrôler la disponibilité de l'eau, en assimilant un milieu naturel complexe à un système simple. Les mégabassines permettent de s'affranchir des contraintes du milieu naturel, en commençant par des conditions météorologiques et en passant par une panoplie de facteurs hydriques, topographiques, géologiques ou encore géographiques qui influencent la disponibilité de la ressource en eau. Deuxièmement, il y a un oubli du contexte, de la spécificité de chaque espace-temps. Les mégabassines sont conçues comme une réponse absolue qui peut être déployée dans n'importe quel milieu agricole, que ce soit en altitude, en zone aride ou encore en zone humide. Au Chili, en Catalogne ou dans les Deux-Sèvres, il est presque impossible de distinguer une mégabassine d'une autre, si ce n'est par ses dimensions. La mégabassine est en quelque sorte un puits standardisé, où le seau autrefois utilisé pour remonter l'eau est remplacé par des pompes et par un système de rechargement automatisé. Pour finir, ce dispositif fait également preuve d'un oubli des cycles naturels et des limites des milieux. Cette oblitération du milieu naturel s'accompagne inexorablement d'un oubli des limites hydriques et plus largement des limites écologiques. La possibilité même de puiser massivement dans les nappes phréatiques en hiver traduit une déconnexion de l'être humain vis-à-vis des cycles naturels, en invitant à la surconsommation et au gaspillage de la ressource. Le sol et ses nappes phréatiques deviennent un nouveau gisement de richesse pour l'extractivisme.
Donc on voit très concrètement comment la mégabassine est le symbole d'un oubli des milieux, mais dans le même temps, on voit qu'elle répond aux besoins de nombreux acteurs. Comment expliquer ce paradoxe, Martin ?
Eh bien, tu fais bien de le mentionner, Eliott. C'est une question très intéressante. C'est justement sur ce point-là que réside toute l'ambivalence des mégabassines. D'un côté, elles semblent être l'illustration de l'oubli des milieux naturels et sociotechniques, mais de l'autre, elles semblent s'insérer très bien dans le milieu de l'agro-industrie. En assurant la disponibilité d'importantes quantités d'eau et en permettant d'éviter la variabilité et l'imprévisibilité des écosystèmes, la mégabassine pérennise les logiques de l'agriculture intensive. C'est un autre intérêt de mobiliser le concept de milieu plutôt que d'environnement. Le milieu des mégabassines a son propre système de valeurs, régi par le besoin immédiat de trouver une solution au stress hydrique que subissent des systèmes agricoles industriels. On pourrait dire que le milieu naturel et écologique traverse le milieu agricole, mais à cause de ces pratiques, que l'inverse ne se produit pas. Les mégabassines, qui font partie du milieu agro-industriel, ne traversent pas le milieu écologique. Je veux dire par là que les deux milieux n'ont pas la possibilité de coexister, car l'une détruit l'autre. La mégabassine permet de contrôler une définition réduite de l'environnement, pour que des acteurs agricoles puissent ne pas mettre la clé sous la porte, ou bien par une sorte de conservatisme, pour que l'ensemble de la société n'ait pas à changer ses modes de production et de consommation. Donc la mégabassine semble répondre à une question qui est en fait mal posée. Comment faire pour continuer à produire de la même façon malgré la crise climatique, spécialement face à la pénurie d'eau ? Il ne s'agit pas de produire autrement, ni de s'adapter au milieu existant, mais de rendre la ressource en eau accessible à tout moment, même l'été lorsqu'il y a des périodes de sécheresse. Face à la pénurie d'eau, nous aurions pu nous poser d'autres questions, par exemple comment adapter les cultures et systèmes agricoles au manque d'eau.
Et plutôt que de revenir à des aménagements qui permettraient effectivement de rendre accessible l'eau à tous les usages, dont l'agriculture, on continue avec des fuites en avant à vouloir stocker de l'eau dans des bassines alors qu'on devrait les stocker dans des milieux naturels pour qu'on ait une chance qu'elles rejoignent les nappes souterraines. Le modèle agricole adossé à ces bassines est un modèle industriel, exportateur, soutenu par la PAC en amont du geste de production, soutenu par de l'argent public dans ces équipements-là et qui ne s'adresse qu'à 6% des agriculteurs.
Donc effectivement, dans l'extrait de cette interview de Benoît Biteau qui a été fait dans le cadre de la COP27, on entend cette différence entre les différents milieux et la rupture qui se produit entre l'insertion des mégabassines dans le cadre agro-industriel et la rencontre avec le milieu écologique dans lequel elles s'insèrent. Ce réflexe de conception qui consiste à vouloir résoudre un problème sociétal complexe par une réponse unique et purement technologique, ici donc dans le cadre de l'agriculture face au changement climatique, notamment à la sécheresse, eh bien ça a un nom. Ça s'appelle le technosolutionnisme. Le technosolutionnisme, c'est une approche ou un état d'esprit qui consiste à croire que les problèmes complexes, souvent sociaux ou environnementaux, peuvent être résolus principalement ou exclusivement par des solutions technologiques. La première caractéristique de ce réflexe, c'est qu'il tend à minimiser ou ignorer les nuances des contextes socioculturels, économiques et environnementaux dans lesquels ces technologies sont déployées. Et la deuxième, c'est qu'il répond parfois à des questions mal posées, à des problèmes tout simplement inexistants. Dans les mouvements technologiques cités lorsqu'on parle de technosolutionnisme, on peut trouver l'exemple de la voiture électrique, souvent présentée comme une solution pour réduire les émissions de CO2. Si elle diminue effectivement ses émissions par rapport à un moteur thermique, elle ne fait que déplacer les problématiques. Elle n'annule pas les émissions de CO2 liées à la voiture individuelle. Tout comme les mégabassines déplacent la question fondamentale de la gestion de l'eau. Certes, on a besoin de la technologie et de techniques pour produire, mais développer nos sociétés, mais les problèmes de l'agriculture ne seront sûrement pas résolus à la technologie elle seule.
Merci pour cette explication sur le technosolutionnisme. À vous entendre, on comprend que la mégabassine ne saurait être une solution. Mais pourrait-elle aggraver le problème ?
Eh bien, c'est une bonne question. Les mégabassines peuvent, en plus d'être insuffisantes, effectivement être délétères. C'est un peu la même chose que la voiture électrique verte que je citais, qui légitime et encourage davantage l'usage d'une voiture. Les mégabassines modifient notre rapport à l'eau et à l'agriculture en elle-même. L'eau passe d'être une ressource limitée à une ressource que l'on peut facilement maîtriser, qui serait quasiment infinie. Dans ce sens, les mégabassines sont en quelque sorte contre-productives. Plus on va normaliser le fait d'aller puiser de l'eau dans le sous-sol pour alimenter nos cultures, plus on va gaspiller la ressource parce que sa finitude est invisibilisée.
Et donc, en somme, on peut dire que la mégabassine est une maladaptation aux enjeux du changement climatique. En prétendant contrer les effets du changement climatique, notamment les phénomènes de sécheresse, on aggrave les sources du problème, à savoir un capitalisme débridé qui se traduit par une politique agricole productiviste qui détruit les sols, colonialise l'ensemble du monde et accentue finalement l'ensemble des causes du réchauffement climatique et des crises écologiques que l'on connaît. Alors, si on arrive bien à comprendre les nuisances de tels projets et qu'on décide de finalement continuer à les mener, c'est que finalement on ne doit pas avoir d'autre solution que celle-ci. On pourrait avoir ce réflexe de pensée qui consiste à dire il n'y a pas d'autre alternative. Pourtant, quand on se penche un peu sur la diversité des modes de production, quand on se penche un peu sur l'histoire, on peut se rendre compte qu'il existe de nombreuses alternatives pour réencastrer les usages de l'eau dans des cycles humains responsables et justes pour l'ensemble des acteurices. Et c'est pour ça qu'on va vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour traiter de l'ensemble de ces alternatives qui sont nombreuses, qui nous feront voyager des canaux andalous en passant par les différents systèmes de rétention d'eau utilisés dans notamment la Provence. Waouh. Et voilà, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là, portez-vous bien.
Merci beaucoup Elliot pour ce teasing de fin d'émission. Vous les avez entendus nous parler de mégabassines et donc d'étudier, de critiquer ces initiatives technologiques au prisme des concepts, notamment de technosolutionnisme et d'oubli des milieux. Concepts avec d'autres, on a parlé tout à l'heure par exemple de non-substitution ou de la question des valeurs, qui sont donc travaillées dans le cadre du cours H10 de l'Université de Technologie de Compiègne. Vous pouvez retrouver tous les éléments concernant cette émission sur l'onum.cn.
Vous pouvez nous retrouver sur l'onum.scenari et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos sources et l'ensemble des références qu'on a mobilisées sur notre site web. Et vous pourrez également consulter l'ensemble des travaux qui ont été menés dans l'UV H10 réalisés à l'Université de Technologie de Compiègne.
Voilà, merci beaucoup sur le site aperi.tu pour retrouver les enregistrements. Et donc peut-être à la semaine prochaine, si je suis encore là, pour continuer de parler de ces différents sujets.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.